Bonjour tout le monde et bien merci de votre fidélité pour Tournepage. Toute l'équipe de Chartres se retrouve aujourd'hui pour vous souffler encore des idées de lecture pour les vacances. Et c'est Annie qui commence aujourd'hui.
Oui, je voulais proposer de la poésie. Pour ceux qui aiment la poésie et même ceux qui l'aiment moins et qui veulent s'y risquer et qui ne le regretteront pas, je voudrais vous parler de trois poètes russes du siècle, du XXe siècle. Bien que je sois beaucoup moins bien placée que d'autres, je regarde Yves Bastide, que d'autres pour vous y convier. Mais je vous y convie quand même. Et cet été, jetez-vous dans cette poésie russe du siècle dernier. Trois parmi beaucoup d'autres, d'ailleurs. Bon, Anna Akhmatova, qui est née près d'Odessa en 1889. Je vous cite quelque chose qu'elle écrit le 1er août 1914, pour vous situer un petit peu son œuvre. « En une heure de temps, nous avons vieilli de 100 ans. » Son premier mari est fusillé par les soviets, son fils unique est arrêté, il sera détenu presque 20 ans. Elle écrit son Requiem, un grand poème épique du peuple russe martyr. Voilà, c'est très très résumé, mais Anna Akhmatova, j'espère que vous la connaîtrez si vous ne la connaissez pas encore. Alexandre Bloch, poète, journaliste, homme de théâtre, critique d'art, etc., très fidèle reflet de ce siècle d'argent, de la culture russe, que nous connaissons très peu, trop peu, en Occident. Lui, Alexandre Bloch, salue la révolution russe dans l'enthousiasme, d'abord. Il proclame la victoire de ce qu'il appelle la musique, c'est-à-dire la vie, et on peut dire de lui qu'il est symboliste. Je cite quelques vers de lui. « Je sais entendre dans les bribes de mots le pas brumeux des autres mondes. Je vais suivre le sombre envol du temps. Je sais chanter avec le vent. » C'était Alexandre Bloch, très 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 brièvement résumé. J'espère que vous irez lui. Le troisième poète et prosateur, bien sûr, Ossip Mandelstam, dont nous parlons un petit peu plus particulièrement à Chartres en ce moment, puisque Jacques Crémer, l'ancien directeur du théâtre, publie et joue une pièce qui s'appelle Nadejda, le nom de la femme de Ossip Mandelstam, car c'est grâce à elle que furent sauvés les poèmes d'Ossip Mandelstam de la destruction. C'est son dévouement, son ingéniosité, car elle en a appris beaucoup par cœur, ou elle les a fait apprendre par cœur par d'autres. Et en ce moment, la pièce de Jacques Crémer, en collaboration avec Aline, Cartoche, la joue à Chartres et aussi à Paris. Dans l'œuvre en prose de Mandelstam, Le bruit du temps, dans cette œuvre en prose, il capte la musique d'une époque révolue. Il y a aussi le récit du sceau égyptien. Mais son message poétique est si fort, que malgré son exil et sa mort dans un bagne sibérien en 1938, il a traversé les décennies et il a donné à des milliers de gens la force de croire et d'espérer. Il écrit « Siècle mien, ô mienne bête, qui saura fixer le fond de tes prunelles? Qui de son sang recollera ces deux siècles les vertèbres ?» Voilà, sa quatrième prose date de 1929-30 et il cherche toujours le ton juste. Sa femme a écrit un gros livre, Contre tout espoir, et qui va être publié en clandestinement dans les années 70, et qui inclut les poèmes de son mari. Voilà, il faut lire aussi les récits de la Kolyma, qui a été paru en 1978, de Varlam Chalamov, qui, malgré la longueur de ce livre, ou peut-être à cause de sa longueur, on en sort bouleversé à vie, et il nous donne en quelques pages la prodigieuse vision des derniers instants d'Ossip Mandelstam. Et ce passage s'appelle « Chérie Brandy ».
Merci Annie. Et maintenant, c'est au tour d'Elisabeth de vous proposer des idées de lecture.
Après la Russie, on va aller ailleurs parce que je vais vous parler de L'Ange de Whitechapel, qui est le troisième roman de Jennifer Donnelly, qui est née aux États-Unis, mais a vécu quelques années en Angleterre avant de s'installer à Brooklyn avec son mari. Elle devient reporter, puis se lance dans l'écriture, d'abord pour la jeunesse, mais depuis 2004, ce sont des romans tout public, si on peut dire, qui obtiennent de grands succès à travers le monde. Ses souvenirs de jeunesse placent souvent ses romans en Angleterre, enfin plutôt à Londres. Alors qui était l'ange de Whitechapel ? L'ange gardien de ce quartier malfamé à la fin du 19e siècle. C'est India Selwyn Jones, jeune aristocrate, fraîchement diplômée de médecine, qui va décider de renoncer à ses privilèges pour exercer son métier dans la jungle populaire qu'est le quartier de Whitechapel en ce début des années 1900. Ses parents lui permettent de poursuivre ses études de médecine en se disant « c'est une lubie, ça lui passera ». Mais non, une fois devenue médecin, India veut pratiquer son métier et pas n'importe où. Elle veut aller aider les gens pauvres et surtout les femmes dans le quartier le plus pauvre de Londres, à Whitechapel. Au début de ce 20e siècle, il n'est pourtant pas facile d'être une femme médecin et célibataire de qui plus est. India est dévouée à ses patients, impétueuse, avant-gardiste en matière de progrès social. Tout ça est très très mal perçu par son monde et sa famille met tout en œuvre pour qu'elle redevienne une vraie jeune femme de sa classe. Ils veulent la marier à un homme de leur monde, à un éminent politicien, mais India a fait son choix, veut continuer à soigner les pauvres de Whitechapel où elle va croiser le chemin de Sid Malone, un gangster qui règne sur Londres, dont la tête est mise à prix. C'est un livre qu'il est impossible à lâcher. C'est un mélange de Gangs of New York, Roméo et Juliette et Oliver Twist. C'est un conte passionnant où quelques personnages déjà rencontrés dans les deux précédents romans de Jennifer Donnelly, L'Insoumise et le Rebelle, également paru chez Pocket, font leur réapparition, comme Sid Malone par exemple, que nous avons connu enfant au début. Que vous ayez lu ou non ces précédents romans de Jennifer Donnelly, L'Ange de Whitechapel vous passionnera et vous fera très certainement passer quelques très très bons moments.
Merci Elisabeth. Eh bien moi je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la grande romancière anglaise Daphné du Maurier. Et cela pour deux raisons. Une nouvelle biographie vient de sortir qui a été écrite par Tatiana de Ronay et puis une nouvelle édition de son roman Rebecca dans une nouvelle traduction, une traduction d'Anouk Neuhoff. Et ça c'est très très important parce que la première traductrice prenait beaucoup de liberté avec le texte, elle allait jusqu'à couper des morceaux. Donc pour la première fois, on vient de publier l'édition complète de Rebecca. Alors vous connaissez l'histoire, c'est une timide, pauvre orpheline, une jeune fille qui ne dit pas d'ailleurs son nom du tout dans le roman. Elle dit toujours « je ». Elle est demoiselle de compagnie de Madame Van Hopper, qui elle est riche et aime les mondanités. Arrive à l'hôtel où elle séjourne à Monte Carlo, Monsieur De Winter. Monsieur De Winter, c'est un grand seigneur. Il habite le domaine de Manderley, où son épouse, justement, vient de se noyer dans un bateau par une nuit de grand vent. Alors lui, il veut fuir les journalistes et, profitant d'une maladie de Madame Van Hopper, il emmène l'héroïne, je donc, se promener en voiture. Ils déjeunent ensemble tous les jours. Bon, la vieille dame se rétablit quand même et veut partir à New York tout de suite. Alors, affolée, la jeune fille court dire au revoir à Monsieur De Winter qui est en train de s'habiller. Il lui répond « Vous restez avec moi, je vous épouse ». Et c'est là que le deuxième monstre va rentrer en scène, Mrs. Danvers, la gouvernante de Manderley. Et là, c'est vraiment terrible, terrible, d'une grande noirceur et il y a une complexité dramatique qui est très importante. Écrit en 1938, le roman devient mondialement connu en 1940 grâce à Hitchcock. Mais peut-être avez-vous vu effectivement ce film en noir et blanc où le suspense, là encore, est très ménagé. De toute façon, le succès de ce roman-là ne se démentira jamais. Et 20 ans après, Daphné du Maurier disait « Bien sûr que c'est démodé, c'était démodé quand je l'ai écrit, mais je ne saurais jamais pourquoi ». Il s'est emparé de l'imagination de tous. Je vous lis l'incipit. j'ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderlin. On apprend dans la biographie de Tatiana de Ronet que le fameux domaine de Manderlin a été inventé à partir de plusieurs modèles, certes, mais surtout à partir de Ménabili, une maison privée en Cornouaille qu'elle avait louée pendant 25 ans.
Moi, je voudrais penser aux gens qui sont en vacances, qui ne l'iront pas forcément bien installés chez eux dans un fauteuil et qui peut-être vont se trouver au bord de la plage. Donc, au bord de la plage, si on veut lire quelque chose, je trouve qu'il vaut mieux amener des collections de poches. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un récit de Tchekhov que vous trouverez aussi bien en collection de poches, mais dans de multiples collections de poches, que dans la collection de la Pléiade. Donc, si vous êtes partant de pluie dans votre salon, vous pouvez le lire en Pléiade, sinon vous pouvez le lire sur la plage en collection de poches. Et cette nouvelle, c'est La Steppe. La Steppe, c'est une nouvelle que Tchekhov a écrite en 1888. Et c'est une nouvelle dans laquelle il n'y a pas d'histoire. Et c'est pour ça que je trouve encore plus intéressant. Il y a un héros, c'est un jeune enfant, il s'appelle Igor. Son père est mort et sa mère s'est décidée à l'envoyer étudier dans une ville un peu lointaine où il va être hébergé, c'est des étrangers. Donc il part pour aller rejoindre cette ville lointaine et il va découvrir, brusquement, il va découvrir la nature, la campagne, la végétation, la pluie, les orages, le soleil, le chant des oiseaux, l'odeur des herbes, des fleurs. Et c'est un peu cette découverte du monde extérieur qui fait tout le mérite de la nouvelle. Il va aussi découvrir, en passant dans les villages, il va voir des femmes qui sont au puits, il va entendre des gens se disputer, il va découvrir que le monde, n'est pas toujours idyllique. Et lorsqu'il va arriver à destination, Tchekhov ne dit pas vraiment, parce que Tchekhov était quelqu'un de très pudique, mais lorsqu'il est arrivé à destination, Igor sait qu'il vient de franchir une étape dans sa vie. Il n'est plus vraiment un enfant. Devant lui, l'attend des années d'études pour arriver à se faire une carrière, pour arriver à gagner sa vie. Et à la fin de son enfance, il aura connu cette merveille, la découverte de ce qu'est la Russie, de ce qu'est la steppe. Et ça rejoint une grande source d'inspiration pour la littérature russe. Dans la littérature russe, la nature occupe toujours, je dis bien toujours, une place très importante. Alors, si vous avez un moment, et même si vous êtes au bord de la mer, tant pis, laissez-vous griser par l'odeur des fleurs de la steppe, des herbes de la steppe, et aussi des orages de la steppe.
Merci beaucoup Yves, merci à tout le monde d'ailleurs, et bonne lecture d'été à toutes et à tous.